Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro. Je suis là pour les 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Dans les prochains jours, des milliers d'adolescents partout au Québec vivront leur bal des finissants et bien sûr l'après-bal qui suit. Peut-être que vous vous en rappelez, c'est une étape transitoire quand même assez importante, un rite de passage là, quasi obligé et une bonne façon de festoyer là, pour les ados. C'est aussi un petit peu stressant pour les parents, et ce, pour différentes raisons. Bon, on le sait, la conduite automobile, c'est pas très, très reluisant au point de vue des statistiques là, chez les 15-24 ans. Il y a aussi le risque de consommation de drogue et d'alcool, c'est un petit peu plus accru. Comportement sexuel à risque aussi. Comment on peut prévenir ces situations-là? Comment aussi on peut aborder le sujet qui est un peu délicat avec notre ado? J'en parle en deuxième partie d'émission avec Étienne Godette, lui, psycho éducateur, intervenant spécialisé en toxicomanie. Il est auteur, également conférencier et papa. Il devrait avoir de bons conseils. Et puis, vous dire que parmi les plus beaux souvenirs de mon enfance se trouvent les moments collés sur ma mère à me faire raconter des histoires. Je m'en rappelle encore très, très bien. Et à l'inverse, maintenant, je suis adulte et quand un enfant me demande de lui raconter une histoire, ben, je peux pas résister, je craque. Le plaisir de raconter une histoire à un enfant, que ce soit avant d'aller au lit ou dans un autre contexte, c'est un moment de bonheur partagé. Bien sûr, pour un enfant qui vit un séjour à l'hôpital, ce contact-là avec le livre, le plaisir de la lecture, la routine, le rendez-vous de lecture avec le parent, c'est un peu chamboulé, c'est bouleversé. Et pourtant, j'imagine que plus qu'ailleurs, hein, à l'hôpital, la lecture, c'est utile, c'est nécessaire, que ce soit pour contrer l'isolement, l'inquiétude, la souffrance. J'en parle davantage avec Élise Desilets, artiste thérapeutique, et également Dr Louise Coclas, pédiatre à l'Hôpital Montréal pour enfants. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Docteur, bonjour, docteur Coclas, vous êtes au téléphone, Élise Desilets en studio. Élise, je vais te tutoyer parce que ce serait un peu étrange de te vouvoyer, on se connaît.
Oh, je peux faire la même chose?
Certainement. Docteur Coclas, sentez-vous bien à l'aise dans cette discussion?
Oui, on peut me tutoyer aussi.
Élise, je débute avec toi, tu es comédienne, donc le plaisir de raconter, tu connais ça depuis des années. À l'été 2013, tu t'es questionnée, bon, comment on peut offrir un rendez-vous littéraire, un rendez-vous du conte en milieu hospitalier pour les enfants. Et assez rapidement, oui, quelques mois plus tard, un premier programme de conte voyait le jour à l'hôpital Sainte-Justine. D'abord, on reviendra parce que maintenant, c'est aussi au Centre de réadaptation Montréal.
Marie-Enfant.
Marie-Enfant, ben oui, merci. Le conte joué et raconté, bon, tu as mis ça sur pied, ça venait de quel constat?
En fait, ça faisait déjà à l'époque 5 ans que je travaillais en contexte hospitalier comme artiste thérapeutique pour un organisme qui s'appelle Jovia, Dr Clown. Mm-hmm. Donc, j'étais à l'affût un peu de... C'était possible pour moi d'observer les besoins que pouvaient rencontrer les parents et les enfants dans un contexte d'hospitalisation. C'est-à-dire que, effectivement, en introduction, vous avez bien... T'as bien mentionné que la routine est chamboulée, les repères se perdent un peu, mais le besoin de retrouver cette intimité-là avec son enfant reste très présent. Mm-hmm. Donc, voilà, parallèlement au clown thérapeutique, je racontais déjà des histoires en milieu scolaire et j'ai eu envie de voir comment je pouvais apporter ça en milieu hospitalier. C'est les connaissances que j'avais acquises au niveau relationnel et au niveau du milieu hospitalier, comment je pouvais les mettre à profit d'une activité de conte mensuelle.
Mm-hmm. Docteur Coclas, vous êtes pédiatre à l'Hôpital Montréal pour enfants. Est-ce que c'est un constat également que vous observez? Il y a un manque à ce niveau-là et il y a... du moins quand même une importance de la lecture auprès des enfants qui vivent un séjour à l'hôpital.
Oui, je pense que certainement c'est quelque chose de qui peut manquer aux enfants. Je dois dire que bon, moi je travaille à l'hôpital de Montréal pour enfants, au Children's, et au centre de réadaptation Marie-Enfant. Moi j'ai été sensibilisée à la lecture par un programme qui a débuté chez nous à la Pouponnière des soins intensifs déjà. On a des personnes dans l'hôpital, ici, à l'hôpital Montréal pour enfants, qui voyaient souvent que les parents étaient démunis dans ce qu'ils pouvaient faire ou raconter à l'enfant. Et il y a un programme qui s'était mis en place déjà pour donner aux parents l'opportunité d'avoir un livre lors de leur séjour à la Pouponnière qu'ils pouvaient raconter à leur enfant.
Donc, très tôt, hein?
Donc, très tôt, oui. Alors, moi, j'ai été sensibilisée là. Et j'ai eu envie de, dans un contexte où je m'occupe d'enfants qui ont de la paralysie cérébrale, d'offrir à ces familles-là un programme de lecture.
Mm-hmm. Élise, toi, les enfants que tu rencontres dans le cadre du programme de lecture, quel est leur profil?
En fait, ça dépend des milieux que je rencontre. Ça dépend si on prend, pour exemple, au centre de réadaptation Marie-Enfant, je propose une lecture collective aux enfants du deuxième étage en hébergement répit. Donc,
oui.
C'est vous connaissez bien, hein, docteur?
Oui.
Voilà. Bien. Moi, je suis artiste, je suis comédienne, oui. Conteuse. Je n'ai pas nécessairement toujours les termes médicaux pour décrire le profil des enfants, mais bon, c'est des enfants qui séjournent à cette unité à long terme. Mais pardon?
Je vous laisse... Ce sont des enfants qui peuvent être soit hospitalisés pour une chirurgie, qui sont là pour quelques mois, quelques semaines, ou encore des enfants qui sont hébergés là à long terme.
Donc, des séjours de
Donc,
longue durée. Donc, lourdement
handicapés habituellement.
Oui. Élise, quand tu as créé ce programme-là, quelles étaient les contraintes? Ou les obstacles?
D'abord, le programme a vu jour d'abord à Sainte-Justine. La première contrainte, ça a été de me faire accepter du milieu. Chose qui était, quand même, les gens me connaissaient, me reconnaissaient sans mon nez de clown, me faisaient confiance. Donc, ça a été, bon, après avoir l'accord du milieu, de mettre en place un horaire, une cédule, afin de répondre, en fait, aux besoins du milieu et aux réalités du plan de soins des enfants. C'est-à-dire que j'avais beau vouloir offrir une représentation en groupe aux enfants, si la plupart des enfants se retrouvaient en isolement, je devais respecter ça.
Oui.
Donc, en collaboration avec le personnel de l'établissement, soit les éducateurs spécialisés ou les infirmiers, infirmières qui sont sur les départements, le matin, quand j'arrive, j'identifie les enfants à voir en individuel. Ensuite, je prévois une rencontre collective. Et je dois aussi m'assurer que les enfants que je vois en individuel sont vus soit en premier s'ils sont en isolement protecteur, si on doit faire attention
Eux,
ou s'ils sont en isolement à cause d'une maladie qui peut être contagieuse, quoi que ce soit, de les voir en toute fin de journée.
Docteur Coquelin, Élise le disait bien, il y a différents obstacles liés à la santé de ces enfants-là. Aussi, c'est un public qui est plus fatigable. J'imagine qu'il faut penser à aller vers l'enfant, et non pas l'enfant qui se déplace vers le compte.
Oui, moi, le programme que je voulais offrir aux enfants, c'est un petit peu... Le contexte est un petit peu différent parce que moi, c'était pour, en particulier pour les enfants à l'externe, hein? Les enfants qui ont des lourds handicaps, qui vivent dans les familles et pour lesquels le parent peut se sentir démuni et pas savoir comment raconter à son enfant des histoires. Hein, et prendre un livre et le partager avec l'enfant.
Oui.
Alors je m'intéressais au contexte de l'enfant qui est réintroduit dans sa famille, en particulier.
C'est intéressant de s'interroger sur la façon dont le parent peut se réapproprier le livre pour créer ce contact-là avec son enfant, hein, parce que... Moi, dans les activités que je propose, que ce soit à Sainte-Justine ou à Marie-Enfant, le livre devient un prétexte à la rencontre.
Ah,
hein?
Oui. Ah, oui.
Ensuite de ça, il faut en fait se servir d'outils, que ce soit au niveau sensoriel, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau... En fait, essayer d'interpeller l'enfant, mais surtout baser tout ça, cette belle rencontre-là autour du livre, au niveau du plaisir, hein, oui. Échanger.
Oui. Oui, parce que aussi, j'imagine que dans certains cas, pour le parent et l'enfant, c'est se réapproprier aussi le contexte. On n'est pas à la maison, oui. On n'est pas dans notre lit. Il y a des inquiétudes également liées à l'état de santé de l'enfant. Donc, justement, ça peut apaiser et permettre la rencontre.
J'ai une petite anecdote à vous raconter.
Sûr,
en fait, j'ai une fois quand je me suis présentée dans une chambre avec un jeune enfant d'une dizaine d'années, quand j'ai proposé l'activité en individuel parce que le garçon était en isolement, la maman m'a répondu « Oh, il est un petit peu vieux pour ça, il n'a pas tout à fait envie de se faire raconter une histoire. » J'ai été invitée à raconter à son co-chambreur, hein, en fait, à son voisin de chambre. Et après m'avoir entendu raconter à un enfant du même âge que lui, quand je suis sortie, il m'a dit « Ah, oh, j'aurais peut-être aimé ça, mais là, je m'en vais à un rendez-vous ou quoi que ce soit. » Je lui ai dit « Je peux te prêter un livre et si tu veux, mais tu le liras à ta mère. » Alors, les deux ont éclaté de rire et j'ai su par la suite qu'il y avait partagé un super moment de lecture ensemble en inversant les rôles.
Oui. Donc, il y a des impacts réels
oui.
et directs. Élise, pour la santé, Dr Coclas, est-ce qu'il y a des études à savoir si la lecture a un impact sur le développement de l'enfant, sur sa santé, sur son bien-être aussi?
Oui, je pense que de plus en plus, il y a de la littérature sur ces sujets qui décrivent le bien-être apporté par la lecture. Comme je vous dis, même chez le très jeune bébé, le contexte de la lecture est un moment privilégié de chaleur humaine, de communication humaine. Et il y a des études, même chez les tout jeunes bébés, ouais. Que ça apporte un grand bienfait. Alors, ce processus-là est un processus qui se continue et je vois avec un grand bénéfice à la part de quelqu'un comme le Dr Klun là qui fait ça dans un contexte où les enfants sont soit seuls ou soit le parent ne sait pas comment faire.
Oui.
Je pense que c'est oui, il y a de plus en plus de littérature et le bénéfice il est là pour tous les âges.
Élise, comment tu fais le choix de tes livres?
Tantôt on parlait de contraintes. Contrainte, il y en a eu une qui m'est apparue quand j'ai voulu mettre en place les programmes de compte en milieu hospitalier, c'est la contrainte financière.
Oui. Mm-hmm.
Et je vous parle de ça parce que ça m'a amenée à découvrir en fait une maison d'édition qui a voulu s'investir avec moi comme partenaire d'affaires et j'ai eu le bonheur de découvrir leurs albums jeunesse. La maison d'édition, c'est les éditions Fonfon.
Ah, oui.
De courts albums, on parlait aussi de contraintes tantôt pour l'enfant. Effectivement, la durée du récit doit être assez relativement court pour soit permettre à l'enfant de suivre son plan de soins ou parce que l'enfant est plus fatigable. Donc, j'y vais par coup de cœur, moi, puisque j'oriente ma rencontre au niveau beaucoup du plaisir, de l'imaginaire, la créativité. Donc, je peux procéder de deux façons, soit avoir un coup de cœur pour un album puis ensuite décider d'aborder la thématique qui est à l'intérieur du récit ou d'avoir envie d'aborder un récit et là de partir à la découverte, à la recherche d'un album jeunesse traitant du sujet. Et là, je vais être à l'écoute des recommandations, il y a des super sites web qui se font sur des groupes de lecture de littérature jeunesse. Mm-hmm. Donc, voilà.
Est-ce que les parents sont présents parfois lors de l'heure du compte? Ou encore là, du programme « Contes joués et racontés ».
Oui, en fait, je favorise ça.
Mm-hmm.
Parce que c'est en fait, l'idée est de semer une petite graine dans la tête des parents pour leur donner envie de soit poursuivre ou reprendre la lecture avec l'enfant. Parce que souvent, je vais laisser l'album dans le milieu où j'ai fait la lecture. Et des fois, pour l'enfant, de voir le parent prendre plaisir à entendre une histoire, l'enfant ressent un plaisir d'être juste témoin de ça également.
Mm-hmm. Oui, je pense que souvent le parent a besoin d'être un peu accompagné et montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec le livre. Je crois que c'est pas tous les parents qui savent comment faire avec un livre. Ça peut paraître simple pour les gens qui l'ont reçu de leurs parents,
ouais. Mm-hmm.
Ce cadeau-là, mais beaucoup de personnes, on a des personnes qui viennent de tous les coins de la planète avec toutes sortes d'histoires derrière eux pour qui le livre n'a pas nécessairement été un outil qu'ils ont beaucoup utilisé ou ils ne savent pas comment on raconte l'histoire. Alors, je pense que quand leur montrer comment on peut lire à un enfant, c'est très important.
Oui. Je vous écoute tous les deux et ce que j'entends, c'est que le parent fait partie de l'équation vraiment gagnante pour cette activité-là et pour le plaisir de la lecture aussi.
Tout à fait. Le parent, je pense qu'il joue un rôle important. C'est lui qui connaît bien son enfant. Donc, par exemple, une autre anecdote en contexte en oncologie, il y a eu un lancement, en fait, avec la maison d'édition Fonfon. On a fait le lancement d'un album qui traitait, en fait, du cancer chez l'enfant.
Mm-hmm.
La maman a assisté d'abord à la représentation en collectif, donc en groupe. Sa fille était en isolement et m'a demandé d'aller raconter l'histoire à sa fille pour lui permettre d'aborder les thèmes reliés à l'hospitalisation par la suite. Donc, je servais un petit peu de porte d'entrée à la discussion.
Ouais.
C'est très important.
Une façon un peu de rassurer sa mère. Hein? Les enfants ont ce besoin-là également. Hein?
Oui.
Oui.
Oui,
Docteur Coclas.
Je peux aussi rajouter, nous, à l'hôpital de Montréal pour enfants, on a un programme qui a été mis en place et qui était supporté par la Fondation et qui était de donner un livre qui est supporté aussi par la Société canadienne de pédiatrie derrière tout ça, qui était de remettre un livre à chaque enfant. Et moi, je m'occupe de suivi néonatal et on remet un livre à chaque enfant qui vient à la visite. C'est intéressant de voir que je demande souvent aux parents, mais de jeunes bébés là de 9 mois, 12 mois, quelle est l'activité préférée de votre enfant? Et les parents vont me dire, mais c'est un livre, ils aiment le livre. Alors je pense que quand on leur donne l'opportunité très tôt et qu'on montre comment faire, que ce soit par quelqu'un qui intervient dans l'hôpital comme ça pour des enfants qui en ont besoin à une période critique ou que ce soit des enfants qui sont en externe, c'est un grand bénéfice pour les familles que de voir comment le livre peut être utilisé et se l'approprier avec leur enfant très tôt.
On parle depuis tout à l'heure aussi de l'importance des fondations hein, qui s'impliquent dans les livres.
Justement, Lise, j'aimerais que tu nous parles de l'importance ou de l'apport de la Fondation Milio parce qu'on se quitte dans une minute.
Oui,
alors, je vais donner l'opportunité de le faire.
Merci. Mais la Fondation Milio, c'est une fondation qui est comme partie prenante du Centre de réadaptation Marie-Enfant. La directrice générale, Catherine Sévigny, est impliquée et préoccupée de l'humanisation du milieu. Et c'est elle, en fait, qui endosse le projet pour la prochaine année du conjoint. Hein? Vous êtes d'accord?
Moi, là, j'ai l'impression d'avoir créé une rencontre.
je l'ai abordé pour pouvoir développer ce programme pour des enfants avec des handicaps lourds dans la clinique externe. Elle a endossé tout de suite le projet et elle est allée plus loin et a voulu amener l'expérience de la lecture partagée dans tout Marie-Enfant et dans tous ses aspects. Je dois la remercier beaucoup de la Fondation Milio, là,
Fondation-Milio.org.
Oui, c'est ce que je m'en allais dire.
Pour aller voir toutes les réalisations de la Fondation, on pourra aussi en savoir davantage sur les réalisations d'Élise. J'ai l'impression, et je le disais, là, que j'ai fait une rencontre gagnante. Donc, docteur Louise Coclas, Élise Dizilet, je pense que la rencontre va se poursuivre et que vous allez être amenée dans l'avenir à vous rencontrer. Je vous le souhaite parce que vous œuvrez toutes les deux vraiment pour une très, très belle cause. Je le rappelle, la lecture en milieu hospitalier pour les enfants et on s'en rend compte. compte en vous écoutant qu'il y a de nombreux impacts positifs pour la santé des enfants, le bien-être des familles aussi. Élise Désilet, comédienne, artiste thérapeutique, docteur Coclas, pédiatre à l'Hôpital Montréal pour enfants. Merci beaucoup
et
à vous deux.
Et au centre de réadaptation.
Et au centre de réadaptation Marie-Enfant, bien sûr. Ben oui, je dois le rappeler. Et on mettra, bien sûr, le site de la Fondation Miliou sur notre site. Merci.
Merci. Oui.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Étienne Godette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychoéducateur, intervenant spécialisé en toxicomanie et, je le disais tout à l'heure, papa également. Donc, vous devriez pouvoir nous donner de bons conseils aujourd'hui parce que, bon, il y a plusieurs parents au Québec qui sont sur le qui-vive en ce moment. C'est la période de l'année des bals, des finissants. Hein? Et parce qu'un ado bien informé est en mesure de faire des choix plus éclairés, je pense qu'aujourd'hui, on peut donner de bons outils pour aborder cette information-là pour les parents et les enfants, bien sûr, mais c'est délicat parfois à aborder ces sujets-là pour les parents.
Écoutez, quand l'enfant est petit puis on lui apprend le vélo, qu'est-ce qu'on fait? On va directement pour lui montrer comment faire. Lorsqu'il revient avec une chicane de l'école, on y va directement. C'est pas parce qu'il grandit qu'on peut pas aborder des sujets qui sont centrales pour lui de manière directe. Moi, je pense que la ligne droite est quand même une bonne direction comme parent. Parce que des fois, on a peur de le heurter, on a peur de se tromper, on a peur de pas être l'expert. Mais dans le fond, quand toute information, toute intervention qui est faite par un parent, qui est faite avec bienveillance, qui est faite avec amour, va être acceptée par l'enfant.
Oui. Bon, on le sait, les sujets chauds, c'est la consommation d'alcool et de drogue, oui, la sexualité, la oui, conduite automobile aussi. Mm-hmm. Vous êtes aussi spécialisé en toxicomanie. On va commencer avec la consommation d'alcool oui, et de drogue. Comment on aborde ça avec notre ado?
Bien, on peut l'aborder de manière, comme je disais, ouverte. Alors, avoir une discussion franche avec l'enfant, à savoir quelles sont mes limites, moi, comme personne? Et là, comme personne et comme parent, parce que les ados sont très forts là-dessus. Si je leur dis, moi, écoute, je suis pas pour ça, la consommation de drogue et d'alcool abusive, et d'un autre côté, j'agis de manière différente ou de manière incohérente, l'enfant va très bien comprendre. Il va comprendre beaucoup plus par mes actions que par mes discours. Mm-hmm. Mais de dire, dans une situation comme un bal définissant, écoute, c'est un grand événement, on s'en cachera pas. Le bal définissant a quasiment pris la place du mariage au Québec. Il y a des gens qui préparent ça des mois à l'avance. Il y a des centaines, des milliers de dollars dans certaines circonstances qui sont investis. Les jeunes filles, les jeunes garçons investissent beaucoup ce moment-là et ils l'investissent des fois de manière non préparée. C'est souvent les premiers gestes d'autonomie, les premiers gestes où on est loin de maman, papa, où justement on veut souligner au crayon gras là, la fin de notre secondaire. Alors des fois, on peut en arriver à faire des abus et des mauvais choix.
Également, bon, il y a la sexualité qui peut être un petit peu plus... c'est délicat à aborder. Évidemment, comme vous l'aviez bien dit tout à l'heure, si on n'a jamais parlé de ça avec notre enfant, c'est encore plus ardu. Là.
Voilà. Alors, la veille du bal, faire les recommandations, je veux pas que tu prennes de la drogue, je veux pas que tu mettes de la drogue, et si tu as des relations sexuelles, mets un condom. Je pense que ça passera pas. Alors, un des trucs que peut-être les gens peuvent prendre à la maison, c'est dire, écoute, en parler directement à l'enfant, mais des fois, l'aborder avec son groupe d'amis. Parce qu'habituellement, quand tu vas au bal et à l'après-bal. C'est surtout l'après-bal là, qui est plus préoccupant.
Ouais, ben oui.
Quand on l'adresse avec les autres amis, on dirait que comme parents, on est plus brillant quand on intervient avec les amis de nos enfants qu'avec nos enfants nous-mêmes. Alors, des fois, ça peut être une façon de dire, on fait venir les meilleurs amis et on aborde ça en disant, écoutez, voici comment vous voyez ça le bal, voyez-vous ça comme une foire, comme une orgie. Alors, ça peut être une façon. Des fois, on peut aussi utiliser des personnes de l'entourage hein, de l'enfant, parce qu'on sait bien, eux autres, ils savent tout, ils connaissent tout, ils ont beaucoup vécu. Nous autres, les parents, on n'est pas très bons là-dessus. Mais des fois, dans l'entourage, un oncle, une tante, un grand-parent, une marraine, un ami de la famille, quelqu'un de significatif peut, des fois, passer le message de dire, écoute, c'est une soirée que ça serait le fun, que tu te rappelles, que tu n'as pas honte, que tu n'as pas de regrets non plus. Alors, des fois, le message, en passant par la bande, a peut-être plus de chance de se rendre.
Étienne Godette, est-ce qu'il peut être bien de prendre certaines mesures préventives, c'est-à-dire, s'assurer qu'il y ait un adulte qui fait les transports entre le bal, l'après-bal et le retour à la maison? Ce genre de stratégie-là?
Ouais, ben écoutez, c'est très large, hein, les après-balles. Il y en a qui c'est organisé dans un champ, une érablière par des étudiants. D'autres, c'est des organismes qui assurent la sécurité, qui assurent le transport. Alors, notre intervention va être différente selon un ou selon l'autre. Alors, mais écoutez, une des choses qu'il y a à faire, c'est de faire confiance à notre enfant. Mais je dirais que c'est une confiance éclairée. Alors, que l'enfant ait avec lui un téléphone. À ce temps, ils ont tous des téléphones cellulaires, si jamais il a besoin. Dire à l'enfant, écoute, si jamais, en tout moment, tu as un problème, tu te sens pas bien, t'as consommé de quoi, puis t'as un effet secondaire que t'aimes pas du tout, tu te sens en danger, tu m'appelles et je vais prendre la voiture, je vais aller te chercher, peut-être faire le deal avec l'enfant, ça sera pas, je te ferai pas un discours de la morale dans retour dans l'auto, là, de dire je vais aller te chercher pour ta sécurité, ce sera une action de non-jugement, on en reparlera plus tard si tu en as envie, mais de sécuriser cet aspect-là, de savoir aussi peut-être qu'un quelqu'un qui est isolé dans ce genre de party-là est plus en danger, à partir du moment où tantôt je vous parlais du groupe d'amis, là, à partir du moment où le groupe d'amis est sensibilisé au fait qu'il peut arriver des affaires pas le fun là-dedans, que ce soit au niveau d'overdose, de prendre trop d'alcool, des vomissements ou des relations sexuelles non désirées. Là. C'est important que le groupe d'amis agisse comme, je dirais, comme garde-fou, comme ange gardien de la situation. Alors, si ils sont 5 filles, 6 filles ou 5 gars ensemble qui voient un de leurs chums en train de déraper, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui puisse aller donner un petit coup de main là-bas pour intervenir. Évidemment, l'alcool au volant, je pense que les jeunes sont assez bien sensibilisés à ça. Sauf que, écoutez, un jeune reste un jeune. Hein, eux autres, comme je vous dis, ils pensent qu'ils savent tout et comment se comporter. Dans les faits, ils ont un cortex préfrontal un peu moins développé que le nôtre, donc ils sont beaucoup plus impulsifs. Alors, évidemment, s'il y a moyen d'assurer le transport ou s'assurer qu'il y a un transport qui est organisé par l'organisation, on vient de faciliter là, la sécurité à ce moment-là.
Ce que je retiens beaucoup de cette discussion, Étienne Godette, c'est de rester aussi dans une attitude d'ouverture et de communication avec notre enfant.
Oui, et j'ai envie de dire aussi de sortir les fantômes ou les monstres là, en disant voici ce qui va t'arriver si tu prends de la drogue, voici ce qui va. Parce que souvent, l'enfant en connaît déjà beaucoup. Mais d'avoir une vision claire en disant écoute, on aimerait que ce soit un événement dont tu te rappelles, un événement dont tu sois fier, que tu sois capable après ça le lendemain d'aller sur Facebook sans avoir peur de te retrouver dans des photos compromettantes ou avec des commentaires pas le fun sur ta réputation. Alors que ce soit un événement festif, parce que c'est le fun de fêter tout le temps que les jeunes ont passé ensemble, mais que ce soit un événement dont on se rappelle et qui est associé au plaisir.
Étienne Godette, je rappelle, vous êtes psychoéducateur intervenant spécialisé en toxicomanie, auteur conférencier. On peut en savoir davantage sur votre parcours à etiennegodette.com. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On souhaite bien sûr une belle période de bal de finissant à tous les parents et aux ados qui nous écoutent. Mathieu Tessier à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous demain, nous. D'ici là, portez-vous bien, profitez du soleil. Bye-bye.